La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Offrir du sens en cadeau de fin d'année, c'est ce que propose une carte cadeau, elle s'appelle Charitips et c'est la solution Elisabeth.
Mais oui, parce que le compte à rebours a commencé là, vous avez peut-être déjà votre calendrier de l'Avent et vous retirez chaque
jour.
Ben voilà, et ben là aujourd'hui on va vous parler de Charitips parce que pourquoi ne pas y mettre du sens dans ce cadeau de fin d'année. C'est aussi l'occasion de faire un acte de générosité. Et c'est ainsi que depuis quelques mois, notamment ça date de mai dernier, un jeune designer a créé Charitips. C'est la toute première carte cadeau caritative pour soutenir des associations. Bonjour Maxime Kiveré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de cette carte cadeau Charitips. Alors comment vous avez eu cette idée de mettre en place une carte, un cadeau et en plus ça fait du bien autour de nous?
Et bien en fait, l'idée remonte à l'automne 2018. J'étais en charge d'organiser la cagnotte pour le départ d'un collègue et un ami avec lequel je travaillais à l'époque. Donc c'est assez classique dans les entreprises. On a réuni une belle somme d'argent qui a permis de lui faire de beaux cadeaux. Et en fait, il restait une trentaine d'euros sur cette carte, si je me souviens bien. Et j'avais plus aucune idée de cadeaux qui puissent être à la fois utiles et en accord avec nos valeurs respectives. Et en fait, c'est là que je me suis dit pourquoi juste pas reverser cet argent à une association de son choix. Mais étant donné que c'était une surprise, je ne savais pas quelle association choisir à sa place. Donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur Internet. Et en France, je n'ai rien trouvé qui permettait d'offrir en fait, la possibilité de faire un don. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de le créer.
Donc vous l'avez créé, vous avez sélectionné des associations. Comment ça marche?
Exactement. Alors, le premier problème auquel je me suis confronté, c'est qu'en France, on a plus de 3 millions d'associations. Et qu'en fait, c'est une charge de travail monstrueuse pour essayer de...
Bah déjà, de la choisir.
Voilà, moi j'aurais envie de toutes les mettre. Elles méritent toutes en fait d'avoir des dons. Donc je me suis appuyé sur l'initiative de la fondation La France S'Engage.
Mm-hmm, qui nous connaissons bien ici.
Exactement, qui liste en gros, et labellise chaque année une petite dizaine de projets et qui font tous la preuve de leur impact social, sociétal et de leur efficacité. Donc ça m'a permis en fait...
Donc c'est à travers le prisme de l'association La France S'Engage que vous avez sélectionné vos associations partenaires.
Exactement. Aujourd'hui, il n'y a que les associations qui font partie de La France S'Engage. À terme, ça a peut-être évolué, mais en attendant, c'est un beau tiers de confiance qui permet aussi de rassurer les utilisateurs.
Alors chaque jour, vous présentez une association de votre choix. J'en ai aujourd'hui, par exemple, vous présentez Entourage.
Exactement.
Entourage qui lutte contre la solitude des personnes sans domicile fixe en incitant les riverains à oser la rencontre avec leurs voisins de la rue. Alors je me suis dit, par exemple, si je prends une carte cadeau Charitips et que je choisis Entourage, l'argent récolté servira à quoi?
Alors ça, c'est propre à chaque association. Aujourd'hui, on n'a pas encore les données suffisantes par association pour savoir exactement à quoi va servir ce don. Par contre, une fois que le don est fait, l'association après va pouvoir redonner des informations régulièrement via des newsletters.
Celui qui est possesseur de la carte.
Celui qui utilise la carte, celui qui reçoit la carte.
Que dit notre coach?
Alors, elle dit d'abord bravo parce que d'ailleurs, je suis étonnée que ça n'existe pas encore, une carte comme celle-là.
Alors, ça y est, ça existe.
Voilà, enfin que ça n'existait pas jusqu'à présent.
C'est pour ça qu'il est là.
Je connais bien le marché des comités d'entreprise pour avoir fondé Canal CE et je pense que c'est un des top scores, la carte cadeau à Noël. Donc,
exactement.
Déjà, c'est une cible qu'il faut absolument aller voir parce qu'en plus, ça va énormément leur plaire comme idée.
Tout à fait prévu.
Voilà, c'est tout à fait prévu.
Donc,
voilà, il y a des plateformes comme Canal CE, etc., pour aller voir. Mais la question, c'est. Comment pratiquement, en fait, c'est une carte qui effectivement est associée à une seule association.
Oui.
Donc il faut que ce soit assez fluide parce que du coup vous avez combien d'associations, vous n'avez pas des cartes.
Il y en a une trentaine là, je crois.
Ouais, aujourd'hui, il y en a une trentaine et en gros je m'apprête à ajouter aussi également les associations de La France S'Engage qui sont fait labelliser cette année. Mm-hmm. Et chaque année il y en a un petit peu plus. Et après l'idée c'est derrière de pouvoir ajouter de nouveaux labels. Pour agrémenter le pool d'associations sans pour autant noyer l'utilisateur dedans. Quoi.
D'accord. Donc en fait, c'est une carte où il y aurait tous les logos. Enfin, pour bien faire la similitude, vous mettez une carte avec les logos des associations et c'est entre guillemets, vous mettez 100 euros par exemple, mais il faut décider à quelle association ça va quand même quand on l'achète. C'est pour simplifier le process.
Non, au contraire, en fait, c'est une carte Charitips. Mm-hmm. C'est une carte aux couleurs de Charitips. C'est une carte cadeau en fait traditionnelle. C'est comme une carte cadeau...
Mais c'est une carte cadeau classique qu'on a en magasin, sauf que vous, elle est associée en partenariat avec des associations de notre choix.
Exactement. Oui.
Comment je fais? Elisabeth vient de m'offrir une carte Charitips. Qu'est-ce que je fais pour l'activer? Et pour choisir mon association,
il suffit d'aller sur charitips.com/association. Dans tous les cas, il y aura soit on vous a transféré un mail et vous cliquez sur le lien, soit vous recevez le support physique et il y aura l'adresse dessus. Une fois que vous êtes sur ce site, vous allez arriver sur la page qui recense toutes les associations de Charitips.
Et c'est là que je clique.
Et voilà, et là vous allez pouvoir tranquillement prendre le temps de découvrir chaque association.
Des petits résumés de chaque association.
Exactement.
Donc c'est très
on
facile.
On a fait un peu la part belle en créant des profils pour chaque association avec des beaux visuels, des vidéos, des textes explicatifs qui simplifient la démarche de communication de ces associations-là. Et une fois qu'on a choisi celle qui nous tient le plus à cœur, on a juste à copier-coller le code secret qui est unique pour chaque carte et le virement se fera sous 7 jours.
Aujourd'hui, Maxime Quiéveré, comment peut-on vous aider pour développer Charitips ?
Alors, la première chose, c'est d'en parler autour de vous.
Mm-hmm. Donc, ça c'est fait.
La
ça
deuxième,
c'est, fait, ouais.
c'est de, pourquoi pas, offrir une carte Charitips à vos proches pour les fêtes. C'est pas forcément un cadeau auquel on s'attend.
N'importe quel prix,
à partir de 10 euros. Après, il n'y a pas de limite. Mm-hmm. Mais rien que 10 euros, en fait, c'est un super geste pour vos proches. C'est un super cadeau original et on ne l'oubliera pas, je pense, cette année.
Ça s'appelle Charitips. C'est la première carte cadeau caritative. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter.
Merci à vous.
Sur Europe 1.
Il est midi 58.
Europe 1.
Restez avec nous. Les journées dermatologiques de Paris débutent aujourd'hui. Comment prendre soin de notre peau? Des Français innovent pour nous y aider. Ils sont avec nous dans La France Bouge. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Aujourd'hui, c'est de notre peau que nous allons parler ensemble. Les journées dermatologiques démarrent à Paris. L'occasion de regarder d'un peu plus près quelles sont les innovations tricolores pour mieux protéger notre épiderme. Car 8 Français sur 10 souffrent de problèmes de peau qui peuvent aller du petit ennui cutané passager à la véritable maladie. La peau, c'est vrai que c'est notre première protection, d'où l'intérêt d'en prendre soin. Laurent Mortier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de dermatologie à l'hôpital de Lille. Votre spécialité, c'est l'oncodermatologie, c'est-à-dire que vous prenez en charge tout ce qui concerne en fait les cancers de la peau. Mais depuis 2014-2015, vous avez élaboré avec l'INSERM et avec l'école de textile de Roubaix un tissu qu'on peut dire tissu révolutionnaire. Ce tissu, il est fait de fibres optiques. Racontez-moi comment a démarré l'aventure.
Alors l'aventure a démarré par une rencontre, hein. Souvent ces aventures démarrent par des rencontres, une rencontre entre le responsable de l'unité INSERM, Serge Mordon, et une école d'ingénieurs en textile, avec l'idée de développer une technologie de photothérapie dynamique. Et ensuite une deuxième rencontre avec un service clinique pour essayer de régler des problèmes cliniques à l'aide de cette innovation technologique.
Avec un traitement un peu particulier grâce à cette innovation ?
Oui, tout à fait. L'idée était de traiter des kératoses actiniques, alors un terme un peu barbare qui désigne une pathologie extrêmement fréquente. À peu près 10% des consultations en dermatologie impliquent une prise en charge de kératoses actiniques. C'est une pathologie extrêmement fréquente. À peu près 75-80% des patients de plus de 75 ans vont développer cette pathologie. Et l'idée est de traiter cette maladie à l'aide de la photothérapie dynamique en utilisant ce textile innovant.
Alors les gens qui ne savent pas à quoi ça correspond, on peut le voir parfois sur le crâne des personnes âgées qui ont perdu leurs cheveux, hein, qui sont chauves, ou alors quand on a été trop exposé au soleil sur les bras ou sur les jambes, ça fait des sortes de croûtes et ça peut se développer en cancer de la peau.
Tout à fait, tout à fait. C'est une lésion qui est en général gênante sur le plan esthétique et rarement cette lésion peut évoluer vers un cancer de la peau et les dermatologues sont amenés à prendre en charge cette lésion pour justement éviter potentiellement cette évolution défavorable.
Alors comment l'idée de ce tissu arrive finalement ? Parce que le traitement existe, mais il est assez douloureux, qui est une sorte de photothérapie. Vous vous dites à un moment donné avec l'équipe, avec l'école, avec l'INSERM, qu'il faut peut-être essayer d'enlever cette douleur, d'où l'idée du tissu ?
Alors, il existe effectivement aujourd'hui un traitement tout à fait validé qui s'appelle la photothérapie dynamique et c'est un traitement qui est réalisé par la grande majorité des dermatologues. Le problème de ce traitement est la douleur induite par ce traitement, je répète, utilisé de façon quotidienne en dermatologie. Donc l'idée est d'utiliser un textile qui va permettre de délivrer une quantité de lumière bien plus faible mais pendant une durée plus importante, et par ailleurs d'utiliser un textile qui va pouvoir avoir une conformation parfaite par rapport à la lésion à traiter, la zone à traiter, et notamment le crâne. Comprenez que le crâne est une zone convexe et que la diffusion de la lumière au niveau de cette zone est relativement inhomogène. Donc avec ce textile, l'idée est de faire un traitement tout aussi efficace que la photothérapie dynamique classique, mais qui devient indolore et potentiellement plus efficace.
Alors, il y a eu des essais cliniques de réaliser, au CHU de Lille, bien sûr, en Allemagne également. On est en 2016-2017. Et là, ça y est, la commercialisation a commencé au début de l'été 2019.
Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement bénéficié d'un financement européen qui nous a permis de passer du développement technologique vers l'essai clinique, hein, puisque parfois, il y a de bonnes idées, mais quand on fait l'essai, malheureusement, cette bonne idée ne se concrétise pas par des résultats. Donc, il y a eu un essai clinique avec une évaluation biostatistique qui a permis de démontrer l'intérêt de ce dispositif. Les résultats ont ensuite été publiés et on a pu obtenir un marquage CE. Et dans un deuxième temps, une société s'est développée, dans laquelle on n'est pas impliqué, je ne suis pas du tout impliqué dans le développement de cette société, qui a pour but justement de commercialiser ce dispositif.
Ça concerne quand même 3 millions de personnes en France, ce type de lésion, c'est ça à peu près les chiffres?
Oui, c'est ça. Globalement, 80% des patients de plus de 75 ans ont des kératoses actiniques. Donc c'est vraiment extrêmement fréquent.
Que dit notre coach, Sandra Legrand?
Moi, je trouve ça très intéressant de soigner un peu la douleur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de traitements qui ont des effets secondaires. Ce tissu ne peut pas être préventif, c'est vraiment pour du curatif.
Alors aujourd'hui, effectivement, on est dans le cadre de traitements curatifs. Alors on a un essai qui va démarrer là tout prochainement, puisqu'on continue, nous, l'évaluation clinique. Alors on a une population assez particulière de patients qui sont les patients transplantés d'organes. Et ces patients transplantés d'organes ont un risque majeur de voir apparaître des kératoses actiniques et un risque très important de voir apparaître des carcinomes cutanés. Donc on est en pleine réflexion d'un essai utilisant ce dispositif médical, cette fois-ci à visée préventive, mais dans cette population particulière de patients à haut risque.
Oui, moi je pense que dans la prévention, il y a beaucoup de choses à faire.
Oui, tout à fait. Alors je répète, la prévention majeure, c'est la photoprotection. Ouais. Clairement, c'est des lésions UV induites, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc le message majeur, c'est l'importance de la photoprotection pour éviter l'apparition de ces kératoses actiniques.
Justement, on est en train de parler de nos problèmes de peau, hein, de ces lésions, mais aussi des maladies. Il y a beaucoup de Français, Elisabeth, qui sont touchés par des maladies de peau.
Absolument. Un tiers de la population souffre d'une maladie de peau. Ce sont les femmes les plus touchées que les hommes, 33% contre 28%. Et parmi les personnes touchées, 54% disent souffrir d'anxiété ou de dépression même, lié à cette maladie de peau. Parfois, on peut être gêné, même dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, parce que les maladies de peau, eh bien, ce sont les maladies qui sont les plus stigmatisantes, hein, puisqu'elles peuvent se voir et le regard des autres, eh bien, ça peut provoquer énormément de souffrance.
On reste ensemble et on continue à parler des innovations en dermatologie aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et on prend la direction de Nantes dans un instant pour découvrir ChronoReco, une application pour aider les dermatologues à nous soigner. A tout de suite.
Cet après-midi dans La France bouge, on parle des innovations dermatologiques. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions à nos invités, écrivez-nous sur Twitter, #Europe1. Vous pouvez également nous appeler au 3921, Raphaël.
Même en ayant fait des études de médecine, lire les textes édités par les autorités de santé, c'est souvent long, bourré de termes très complexes et ça n'aide pas forcément au diagnostic rapide et efficace. Pour essayer de simplifier les choses, eh bien, un dermatologue a eu une idée. Bonjour Sébastien Barbaro.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous travaillez au CHU de Nantes et vous êtes responsable du programme ChronoReco. On dit reco hein, pour reconnaissance, je suppose.
Pour recommandation.
Recommandation. C'est un projet d'aide à la décision thérapeutique, c'est ça, pour les dermatologues. Votre spécialité à vous, c'est l'eczéma atopique. Vous avez même participé, je crois, aux recommandations sur le sujet en 2004. Or, vous vous êtes rendu compte que malgré cela, les pratiques de vos confrères n'avaient pas forcément évolué. Vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose.
Oui, exactement. On s'est aperçu que les recommandations, malgré leur production et leur mise en ligne auprès des dermatologues, étaient assez peu utilisées en pratique parce que leur accès était difficile. C'était des papiers qui faisaient plusieurs dizaines de pages et leur accès est difficile. Il faut télécharger le PDF, aller chercher la recommandation qui correspond à son patient. Donc c'est compliqué, c'est finalement assez peu utilisée en pratique par les dermatologues et par les autres médecins.
Donc du coup, vous avez décidé de développer une application à destination des médecins pour connaître en moins d'une minute les toutes dernières recommandations, ne plus finalement passer à côté d'un dernier traitement ou d'une dernière préconisation.
Exactement. L'idée, c'est de prendre les recommandations qui sont produites, comme vous l'avez dit, par les autorités de santé ou par les sociétés savantes, par exemple pour nous, pour la Société française de dermatologie, et de l'adapter dans une application, les simplifier, de l'adapter pour que les dermatologues puissent, en quelques clics, quelques minutes, avoir accès à la recommandation qui correspond à leur patient et à la problématique de leur patient qui est devant eux pendant la consultation.
Donc c'est un gain de temps et ça permet effectivement de profiler le patient, de savoir exactement ce qui va lui correspondre.
Oui, on a construit cette application pour que les dermatologues puissent, en fonction des caractéristiques du patient, de son sexe, de son âge, de son poids, des maladies,
de ses antécédents médicaux,
puissent avoir la dernière recommandation selon les données de la science qui permet de mieux prendre en charge le patient. Bien sûr, ça ne remplace pas la décision médicale qui est toujours le médecin avec son patient.
Mais ça permet cette mise à jour qui n'était pas forcément faite.
Exactement, ça permet d'informer le dermatologue de la dernière recommandation et lui prend la décision ensuite qui correspond vraiment à son patient et à la préférence de son patient.
C'est un travail titanesque parce qu'il a fallu rentrer tout un tas de données à l'intérieur de cette application, je suppose, référencer plusieurs types de maladies, que ce soit l'acné, le psoriasis ou encore d'autres formes de maladies courantes chez les Français et ailleurs.
Oui, c'est un gros travail qui est en cours d'ailleurs, qui n'est pas terminé. Qui est évolutif, on prend les recommandations en l'état et on les traduit en quelque sorte en langage application. On a besoin d'interface entre nous, les médecins qui ne parlons pas le langage des développeurs web, et les développeurs pour construire cette application.
Sandra Legrand, notre coach.
Alors moi, quand je vais chez les généralistes, souvent ils ouvrent un grand bottin médical. Donc en fait, c'est un peu le fameux Vidal. C'est un peu le bottin médical, mais orienté sur la dermatologie, que vous avez mis dans une appli. Donc je trouve ça à la fois intelligent. Je me demande d'ailleurs pourquoi on ne le fait pas sur la médecine généraliste. Parce que finalement, un médecin ne peut pas tout savoir. Donc je trouve ça à la fois intelligent. Et est-ce qu'il a besoin, avec votre appli, de prendre une photo aussi? Éventuellement de la maladie de peau qu'il peut y avoir éventuellement
Non, il n'a pas besoin de prendre de photos parce que le dermatologue est l'expert de la peau, donc il reconnaît les lésions sur son patient. En revanche, il y a sur l'application des photographies qui permettent d'évaluer la sévérité, de l'aider à évaluer la sévérité, parce qu'en fonction de la sévérité de la maladie, la recommandation va être différente.
Cette appli, elle est en cours de construction. Vous espérez la sortir au mois de décembre 2020, c'est-à-dire dans un an. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ?
Il y a encore beaucoup de travail. On a avancé sur une maladie qui est l'acné. L'acné, c'est terminé. On a entré aussi une autre maladie qui est un peu moins connue du grand public, qui s'appelle la maladie de Verneuil. C'est rentré aussi dans l'application. Et actuellement, on travaille sur le psoriasis, puis sur l'urticaire chronique.
Alors justement, Elisabeth, c'est quoi la maladie de peau la plus fréquente aujourd'hui?
Alors,
en France,
peut-être que mes interlocuteurs ne vont pas être d'accord, mais apparemment, c'est l'eczéma, la maladie de peau la plus fréquente. Hein, une plaque rouge qui apparaît sur la peau, qui démange. Ben, là, c'est la base, le premier symptôme de l'eczéma. C'est une affection cutanée qui est courante, qui touche aussi bien les nouveau-nés, les petits comme les grands. Elle peut avoir des tas de causes différentes. En France, 2 millions de personnes souffrent d'eczéma.
Et puis, on parlait d'applications. Je crois que vous en avez trouvé une autre dédiée à la peau, justement.
Oui, par exemple, vous avez Oncoderme, qui est porté notamment par la région Île-de-France, qui permet aux médecins généralistes d'orienter les patients vers des oncodermatologues pour une prise en charge des cancers cutanés. C'est une association qui a été créée il y a 4 ans à l'initiative de dermatologues libéraux qui sont spécialisés dans la prise en charge des cancers cutanés, tant dans le cadre de leur activité libérale que dans les hôpitaux. Vous avez aussi la marque La Roche-Posay qui appartient au groupe L'Oréal, qui a lancé Effaclar Spot Scan. Là, il s'agit de traiter les imperfections, notamment l'acné. C'est une application donc, qui permet de les détecter, qui conseille une routine personnalisée sur mesure. C'est assez pratique quand on n'a pas un dermatologue, quand on n'a pas rendez-vous avec le dermatologue, et on sait que les rendez-vous avec les dermatologues sont parfois longs à obtenir, hein, les délais sont longs. Donc voilà, et quand vous avez par exemple un score supérieur à 2, là on vous dit qu'il est temps d'aller consulter un dermatologue, qu'il faut à tout prix y aller.
Notre coach.
Moi, j'ai une question sur la responsabilité, en fait. Parce que quand c'est un médecin qui vous prescrit un traitement, c'est lui le responsable. Quand c'est une appli, alors qui passe par un médecin ou alors en direct, qui est responsable s'il y a une allergie, s'il y a un problème, s'il y a...
Alors, l'application ChronoReco n'est pas destinée aux patients.
Non.
Bien sûr, elle sera ouverte aux patients et le patient pourra regarder, mais c'est le médecin, le dermatologue, qui utilisera cette recommandation. Donc, il a toute la responsabilité du traitement. Et le médecin, le patient ne va pas se traiter lui-même avec cette application. Ce n'est pas l'idée.
Mais en tout cas, ça va raccourcir les délais. C'était vraiment l'ambition de départ.
Raccourcir
pour pouvoir mieux diagnostiquer.
L'accès aux dernières recommandations scientifiques dans le domaine des maladies cutanées. Ouais.
On reste ensemble et on continue à parler de notre peau aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et c'est au cours d'un voyage que notre prochaine invitée a trouvé la formule pour aider à se débarrasser de l'acné. A tout de suite.
À l'occasion des journées dermatologiques de Paris qui démarrent aujourd'hui au Palais des Congrès, on parle dans la France bouge des innovations dermatologiques. Pour agir, c'est simple, Twitter, hashtag Europe 1 ou alors par téléphone au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
On apprend toujours quelque chose quand on sillonne la planète, on découvre des usages que l'on ne connaît pas et c'est parfois le point de départ d'un projet. Bonjour Louis Breuer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Cosmos et vous avez lancé une gamme de produits contre l'acné directement inspirée de ce que vous avez appris en voyage en Nouvelle-Zélande. Vous avez découvert le miel de Manuka.
Exactement. En fait, c'était il y a 5 ans de cela où je suis parti en voyage en Nouvelle-Zélande pour découvrir le pays. Et il se trouvait que je me suis trouvé nez à nez un jour avec une famille de Maori, donc le peuple indigène néo-zélandais. Et lors de nos échanges sur leur philosophie, leur façon de voir les choses, ils m'ont parlé du miel de Manuka, enfin plus généralement du Manuka, cette plante.
Vous connaissiez ?
Pas du tout, pas du tout. Et comme tout pays, chacun a sa plante un peu miracle. Et quand ils m'ont parlé de ce Manuka, c'est vraiment leur soigne-tout au quotidien. Ils sont malades, c'est Manuka, par les racines, les feuilles, le miel. Et donc je suis rentré en France avec ce miel-là en me disant... Tiens, est-ce qu'il y a vraiment du marketing ou c'est vraiment quelque chose de chimiste et quelque chose de scientifique prouvé? Et étant chimiste, moi, de formation, je me suis intéressé à la plante et il se trouvait qu'il y a un nombre d'écrits scientifiques allant de la dermatologie jusqu'à la médecine, parce qu'aujourd'hui, on retrouve ce miel même dans les CHU français.
Alors, en 2017, vous sortez de votre école, parce qu'à l'époque, vous étiez encore à l'école, et vous décidez de créer avec votre associé votre société. Vous faites des premiers tests?
Exactement. Alors nous, on s'est basé au début sur des écrits scientifiques. Donc le but étant d'avoir une approche biologique du produit, donc uniquement des plantes pour traiter des problèmes aujourd'hui d'acné. Donc c'était de partir du miel de Manuka et trouver les synergies d'actifs, donc d'autres matières premières qui pourraient être corrélées et traiter le problème d'acné ensemble.
Et alors pendant vos tests, vous vous rendez compte que ça fonctionne et qu'en 48 heures finalement, il y a une diminution significative de l'acné?
Exactement, oui. On n'a pas fait les tests cliniques parce que nous on est une jeune structure et donc on n'a pas forcément les moyens financiers d'aller jusqu'aux tests cliniques, bien que c'est notre ambition à moyen terme. Mais sur du court terme, on a fait tester à un panel de testeurs et de testeuses qui eux nous ont fait des retours en disant bah, ça a marché en moins de 24, en moins de 36, en moins de 48. Et on avait plus de 95% des gens qui nous annonçaient en dessous de 48 heures. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on peut annoncer ou alléguer en tout cas une efficacité de l'anti-acné sous 48 heures.
Elisabeth,
quel type d'acné? Parce qu'il y a plusieurs formes d'acné. Est-ce que c'était un bouton d'acné qu'on a envie d'assécher ou c'était une forme d'acné sévère?
Aujourd'hui, c'est plutôt le petit bouton un peu dérangeant alors qui touche principalement les femmes adultes, parce que c'est notre cible principale chez nous. Mais on a des gens qui l'attestent sur leur adolescent. Alors on sera toujours en co-traitement d'un traitement dermatologique, mais ça peut aussi aider et pallier un peu aux effets secondaires que certains traitements peuvent avoir, oui.
Vous mélangez ce miel de Manuka avec d'autres plantes et tout est fabriqué ici en France, en Ardèche même?
C'est fabriqué en France, chez un petit sous-traitant à Vals-les-Bains.
Et le Manuka vient d'une famille en particulier que vous connaissez là-bas qui cultive ?
Aujourd'hui, c'est une entreprise familiale qui nous fournit dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est une petite structure qui produit du miel de Manuka bio. C'est rare d'en trouver sur ce territoire. Ce qu'on mélange souvent, nous, avec le produit, c'est le tea tree en huile essentielle qui marche très bien, qui est son cousin australien. Voilà. Et nous, on mélange avec des plantes françaises. Donc, on va retrouver chez nous du chanvre, du millepertuis, de la carotte, du tournesol. Des choses qu'on trouve facilement en France, parce que le but étant de valoriser un actif étranger, exotique, mais toujours en valorisant la flore française.
Notre coach, Sandra Legrand.
Alors moi, je suis fan parce que j'ai une maman qui mange à peu près 5 à 6 pots de miel d'un kilo par an. Donc, elle nous a élevés au miel.
D'accord.
Donc, je pense que le miel a vraiment beaucoup de vertus alimentaires, mais aussi curatives. La question, est-ce que ce miel donc mélangé, donc après, il n'est plus du tout alimentaire, bien sûr, oui. Et il sert effectivement aux boutons pour l'acné, mais est-ce qu'il peut servir à d'autres maladies de peau, puisque j'imagine que beaucoup de maladies de peau font créer des boutons, des irritations.
Oui, bien
est-ce
sûr.
Qu'on peut le généraliser à d'autres même.
Alors, ce miel, alors comme tout miel, c'est le pansement d'antan, le miel. Dans l'Égypte antique, c'était le pansement. Aujourd'hui, le miel, ce miel de Manuka, on voit des essais plutôt positifs sur l'eczéma et surtout sur des co-traitements en oncologie, sur éviter les effets secondaires qu'on peut trouver sur des traitements en cancérologie. Voilà, ce miel peut aider à ça. Alors, ça reste des écrits scientifiques, on est en phase de test encore. Mais de ce que je peux lire dans les tas scientifiques, il y a des nombreux essais plutôt sur la partie médecine que vraiment dermatologique pure.
Vous êtes pour l'instant distribué essentiellement dans des magasins spécialisés.
Oui, magasins spécialisés et Internet, oui.
Mais vous venez de faire une grosse levée de fonds ?
On finalise notre levée de fonds en ce moment, oui.
400 000 euros, c'est
exactement,
ça ?
Exactement,
oui.
Pour faire quoi ? L'idée étant de passer sur les tests cliniques, parce qu'aujourd'hui, on est sur une allégation qu'on ne peut prouver. Le but étant maintenant de prouver l'allégation scientifique qu'on annonce au quotidien. Et après également de développer de nouveaux produits et se développer sur le territoire national, puisque l'idée c'est aussi d'en faire profiter à l'ensemble de la population française.
Elisabeth, on est en train de découvrir tout un tas d'innovations françaises. Vous avez trouvé, je crois, des choses intéressantes pour les lésions de la peau. Ça bouge pas mal en France.
Ça bouge. Hein. À Mouveau, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Douderm, c'est une marque de textile 100% fabriquée en France qui apporte donc une solution à base de vêtements et de sous-vêtements en coton et en fil d'argent antibactérien. Là aussi, c'est pour les personnes qui souffrent d'eczéma, de psoriasis. Les bébés sont particulièrement exposés parce qu'eux aussi sont près de 20% à être touchés par l'eczéma. Et donc voilà, c'est une solution de la marque Douderm, D-O-O-D-E-R-M.
On reste ensemble et on attend vos questions, bien sûr, sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
39-21 et Twitter, vous pouvez poser vos questions à nos invités. C'est La France Bouge et c'est avec vous. A tout de suite.
Cet après-midi dans La France Bouge, on parle des innovations dermatologiques. On en parle, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Le professeur Laurent Mortier, chef du service de dermatologie de l'hôpital de Lille, spécialisé dans l'oncodermatologie, qui a travaillé au développement d'un tissu lumineux thérapeutique pour traiter les lésions de la peau. Le docteur Sébastien Barbaro, dermatologue au CHU de Nantes, responsable de ChronoRoco, un projet d'aide à la décision thérapeutique pour les dermatologues. Et Louis Breuer, cofondateur de Cosmos, solution bio au miel de Manuka, qui aide à lutter contre l'acné et les imperfections de la peau. Notre coach aujourd'hui, c'est Sandra Legrand, cofondatrice de Yapuka. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés pour cette émission. On se pose pas mal de questions finalement sur le développement possible des solutions pour nous aider à protéger notre peau. Tout à l'heure, on s'apercevait que vous étiez vraiment dans le traitement de tout ce qui pouvait devenir un cancer. Mais avec ce tissu lumineux, je dis tissu révolutionnaire, vous avez la possibilité d'aller plus loin, de faire d'autres choses. Vous avez commencé à réfléchir à la suite.
Oui, alors on en parlait tout à l'heure, on réfléchit à des projets à visée préventive dans des populations particulières. On parlait tout à l'heure du traitement préventif des kératoses actiniques chez les patients transplantés d'organes. On réfléchit également à la prise en charge de pathologies un peu plus rares mais très complexes à traiter.
La
maladie de Paget, oui, qui est une... Donc on a un essai qui est actuellement en cours au sein du service. Donc c'est une pathologie rare qui se traduit par une dermatose localisée notamment au niveau des organes génitaux. La photothérapie dynamique est un traitement efficace dans le cadre de cette maladie de Paget, mais avec des douleurs extrêmement importantes, on le comprend bien, par rapport à la localisation de cette pathologie. Et donc on est actuellement, donc l'essai est en cours, donc pour l'instant on n'a pas de résultat.
Il a débuté il y a 2 mois, je crois.
Oui, c'est ça. On a déjà quelques patientes qui ont été traitées dans le cadre de cet essai, avec pour but d'évaluer l'intérêt de ce textile dans le cadre de cette maladie de Paget.
Ouais, qui serait une sorte de slip lumineux,
ça,
comme les fibres optiques pour le crâne.
par
tout
exemple.
Tout à fait. Et là, on est dans le cadre d'une pathologie rare. Tout à l'heure, je parlais des kératoses actiniques, une pathologie extrêmement fréquente, une préoccupation pour de nombreux Français. La maladie de Paget est à l'inverse une maladie extrêmement rare. Et c'est la particularité des dermatologues de gérer à la fois des pathologies très fréquentes. On parlait de l'acné, on parlait des kératoses, mais également certaines maladies rares, voire très rares.
Elisabeth, vous avez trouvé, je crois, une autre technique révolutionnaire pour le cancer de la peau.
Ça se passe à Toulouse, hein. C'est le CHU de Toulouse qui a annoncé en octobre qu'ils avaient pu faire une intervention chirurgicale assez inédite qui a permis de reconstruire le nez d'un patient qui est atteint d'un cancer classique de la peau, un carcinome basocellulaire, c'est le cancer le plus fréquent de la peau. Mais avec la chirurgie classique, on fait ce qu'on appelle un emprunt de la peau du front pour un lambeau peau à peau, pour reconstruire le visage et que ce soit le plus net possible. Mais là, dans le cas du patient opéré, c'était pas possible d'utiliser cette technique. Et donc, ils ont choisi de prélever la peau de plis sous-mentonniers. Ça, c'est assez rare apparemment. Ils ont réussi et la preuve, c'est qu'un an après l'intervention, et donc ils ont communiqué en octobre dernier, c'est que les résultats sont très positifs. Le patient respire normalement et n'a aucune cicatrice sur le nez.
Il y a énormément d'évolutions qui sont en cours aujourd'hui, Sébastien Barbaro, sur justement les traitements de la peau. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. On parlait d'innovation.
Oui, on a actuellement un boom vraiment des nouvelles thérapeutiques pour les patients qui ont des dermatoses sévères. Et depuis quelques années, on a accès notamment dans le psoriasis à des médicaments innovants issus de biotechnologie, qui sont des anticorps monoclonaux qui permettent d'améliorer très nettement des patients qui avaient des maladies sévères qu'on ne savait pas traiter il y a encore 15 ans. Et depuis 2 ans, c'est la même chose pour l'eczéma atopique, la maladie qui est très fréquente en France et dans le monde. Et cette maladie, on ne savait mal la traiter avec les traitements actuels, classiques. Et depuis 2 ans, on a accès à ces nouvelles biothérapies, biomédicaments qui améliorent beaucoup nos patients.
Oui, je vous vois hocher de la tête.
Oui, puisque dans le domaine de l'oncodermatologie, on a également eu des avancées thérapeutiques majeures, notamment dans le cadre de la prise en charge du mélanome en situation métastatique, qui était un cancer il y a encore très peu d'années associé à une espérance de survie de quelques mois. Et là, maintenant, on a l'aide notamment de ces anticorps monoclonaux, également des stratégies thérapeutiques qui permettent de révolutionner la prise en charge de nombreux patients. Donc, vraiment beaucoup d'innovations thérapeutiques dans notre spécialité.
Sandra Legrand, une question, je crois.
Alors, j'avais une question, en fait, qui s'adressait un peu plus à Louis.
C'est, à Louis
oui, en fait, je me demandais sur la prise en charge, parce qu'effectivement, on aime bien que les médicaments ou ce qui est curatif soit remboursé. Quand on voit ce qui s'est passé finalement avec l'homéopathique, on n'était pas forcément arrivé à démontrer l'efficacité. Est-ce que des remèdes comme les vôtres, avec du miel, avec des plantes, à un moment, va être remboursé par la sécurité sociale ou aidé? Parce que finalement, c'est ça. Souvent, les gens prennent des médicaments.
Il faudra que ça passe d'abord
l'essai clinique.
Ouais, mais
après,
les essais.
Après.
Oui, c'est une question un peu difficile à répondre. Surtout sur la situation un peu actuelle de l'homéopathie. Nous, on ne se base pas sur un actif qui est dilué X milliers de fois. Voilà, nous, c'est une quantité active qui est mesurée. De là, parler de remboursement au niveau de la sécurité sociale, hormis un dispositif médical, je ne peux pas me positionner. Nous, on vend de la cosmétique biologique. Le but, c'est sensibiliser les gens à utiliser des produits naturels pour des problèmes de peau qui sont bénins, entre guillemets, ou qui se soignent facilement avec des plantes. Sur des problèmes plus graves, moi, je conseille toujours d'aller voir un dermatologue. Donc voilà, pour nous, en tout cas, en tant que société Cosmos, on ne se positionnera jamais en tant qu'acteur d'un remboursement, d'une volonté de remboursement de nos produits, hormis la volonté pour nous de passer en dispositif médical à terme. Mais voilà, hormis cela, on ne voudra pas. Oui.
Merci à tous les trois d'être Merci. Venus nous parler dermatologie aujourd'hui et innovation dermatologique sur Europe 1. Il est 13h46.
Europe 1.
On reste ensemble et on va s'intéresser, si vous êtes gourmand, à une maison qui est assez jeune, mais qui a su conquérir ses lettres de noblesse. C'est la maison Perrotte, spécialiste de confiture. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est la maison Perrotte. Bonjour Stéphane Perrotte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes confiturier, créateur de cette belle maison. Tout a commencé en 2013.
Mais pour comprendre comment vous avez réussi à vous imposer, il faut en fait remonter, dans les années 90, on est à Sarcelles, vous êtes en apprentissage?
Alors oui, tout à fait. Je suis un jeune né à Sarcelles, voilà. Je suis entré dans les métiers de bouche assez rapidement.
Charcutier-traiteur.
Charcutier-traiteur, hein. Oui, tout à fait. J'étais un jeune en échec scolaire, et puis on va dire que j'ai eu cette chance de trouver ma voie. Et très rapidement, effectivement, dans ma formation, j'ai cherché effectivement à tester un petit peu mes niveaux de compétences et la qualité de mon travail. Voilà, donc j'ai eu la chance effectivement d'apprentissage de pouvoir participer au concours de un des meilleurs apprentis de France.
Et vous gagnez la médaille de bronze.
Voilà, je gagne une médaille de bronze, tout à fait.
Vous faites plusieurs métiers, toujours dans la cuisine par la suite. Vous ouvrez 3 boulangeries. Et alors un jour, il y a un producteur qui est producteur de fraises notamment, qui vous dit, moi je suis en surproduction, je ne sais pas quoi faire avec toutes ces fraises. C'est là que vous commencez à faire de la confiture.
Oui, tout à fait. J'étais effectivement, j'avais 3 boulangeries, après avoir fait un parcours toujours sans aller à la cuisine et plein de métiers de bouche, parce que je suis juste un passionné de produits et de techniques. Et mon producteur de fraises, voilà, il avait trop de fraises pour mes tartes aux fraises, donc il y avait 50 kilos en trop. Je me suis dit, tiens, je vais faire effectivement de la confiture. Donc, je me suis rappelé ce que faisait ma grand-mère, tout simplement.
Alors, vous les mettez en rayon, ces confitures. Il y a 400 pots, je crois.
Oui, il y a à peu près 300-400 pots, c'est ça. Ouais.
Et ça part en un week-end.
Tout part en un week-end, oui.
Et là, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose à creuser.
Je me suis dit qu'effectivement, il y avait certainement un métier, on va dire, à créer, effectivement, qui pouvait me permettre, en tant que papa de 6 enfants, de pouvoir se dire, je vais peut-être passer un petit peu plus de temps aussi avec ma famille que d'être effectivement au travail de 3h du matin jusqu'à 19h le soir.
C'est assez dingue parce que quand vous vous lancez, les chefs s'intéressent très rapidement à vous finalement. Anne-Sophie Pic parmi les premiers, je crois.
Alors, parmi les premiers, on a eu Thibaut Ruggieri, effectivement, qui a été Bocuse d'Or, qui est venu, la chance, et qu'il est venu s'implanter à côté de chez moi à l'abbaye de Fontevraud. Donc ça a permis de lui faire découvrir les produits. Puis très rapidement, effectivement, on a eu Jean Sulpice, Anne-Sophie Pic qui ont suivi, voilà.
Et l'année suivante, vous êtes sacré meilleur confiturier de France. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en 2015, vous gagnez le championnat du monde de confiture.
Oui, tout à fait. Alors c'est toujours marrant les titres comme ça quand on les rappelle, parce que au démarrage, je fais pas des concours pour avoir des titres, je fais des concours pour savoir comment je me situe en termes de qualité de produit. C'était surtout ça l'important. Après les titres, comme je dis, vous savez, un titre le 26 août 2015, j'étais champion du monde. Le 27 août, c'était terminé. J'étais devant ma bassine et mon plus beau titre, c'est effectivement la clientèle que j'ai et qui me permet de travailler tous les jours.
Alors devant votre bassine, justement, vous travaillez encore à l'ancienne, on faisait la confiture de grand-mère. Hein.
Ah mais c'est la même chose, moi j'ai toujours en mémoire, ma confiture préférée c'est la framboise, et j'ai toujours en mémoire parce qu'on avait des framboisiers à Valognes chez ma grand-mère, donc dans le Cotentin, et j'avais le placard de ma chambre qui était en face de le placard, donc la porte de le placard de ma chambre en face de la porte de ma chambre. Ouais, je vais y arriver quand même.
Oui,
juste en face de votre
chambre.
En face de la porte de chambre, voilà. Effectivement, et à l'époque, on avait toujours...
Vous étiez plus souvent dans le placard que dans la chambre, c'est ça ?
J'ai laissé quelques traces de doigts dans les pots, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les capsules. C'était effectivement des petits films transparents avec des élastiques de couleur. Voilà.
Notre coach, Sandra Legrand.
Moi, je suis une gourmande, donc ça me parle beaucoup. Et puis, je pense que vous avez une centaine de parfums aujourd'hui. Hein.
Oh, on a à peu près une centaine de parfums.
Oui, donc c'est à l'infini, parce que vous pouvez mélanger tout ce que vous voulez chaque jour, faire des tests, de l'innovation.
Alors moi, j'aime beaucoup... Il y a le terme confiturier. Moi, je dirais plus que je suis un cuisinier des fruits.
D'accord, voilà. Oui, c'est une belle
effectivement,
expression.
On a cette possibilité de pouvoir avoir la rigueur de la pâtisserie et avoir un panel de création qui va à l'infini, aussi bien avec des épices, des herbes, des plantes. On peut travailler tout type de produits.
D'ailleurs, vous ne dites pas confiture, vous dites préparation à base de fruits, parce qu'il y a une subtilité, il y a une question de dosage.
Oui, alors c'est une question de dosage, c'est simplement parce qu'on est bien légiféré sur beaucoup de choses. Et effectivement, la réglementation impose d'avoir une teneur en sucre minimum sur la confiture, qui est de 55 grammes pour 100 grammes. Nous, on est en dessous, effectivement. Donc on a ce qu'on appelle une préparation à base de fruits, qui permet d'avoir un produit beaucoup plus qualitatif.
Vos produits, justement, ils sont en circuit court. Vous fournissez auprès de producteurs locaux. Vous faites attention à la provenance.
Alors, il y a deux méthodes de travail. Il y a une première méthode de travail où on va chercher nos fruits effectivement auprès d'un groupement de producteurs. C'est un groupement qui est certifié Demain la Terre, qui effectivement nous permet d'avoir des fruits qui sont minimum en agriculture raisonnée. Et par exemple, des fruits qui viennent de l'étranger, comme l'ananas ou la mangue, on sait qu'il y a une démarche équitable dessus. Voilà. Donc je sais qu'en tant que père de six enfants, ce n'est pas des petits-enfants qui vont aller cueillir effectivement des mangues en Thaïlande pour pouvoir qu'on soit livré. Puis après, on a toute une série de petits producteurs au fur et à mesure qui se sont mis dans la démarche. Donc on a une productrice, par exemple, d'abricots, où sur les abricots orangés de Provence, elle avait 300 vieux arbres et effectivement, elle voulait les abattre. Et moi, j'ai préféré aller les chercher.
Combien Sandra. Vous êtes, parce que c'est assez impressionnant, vous êtes une jeune société, hein, 2016, combien vous êtes de salariés et quel est le volume en nombre de ventes ou en chiffre d'affaires, si vous pouvez le donner, parce que c'est assez impressionnant.
Alors le volume en termes de pots, on fait à peu près 200 000 pots à l'année, tout à la main.
D'accord.
Voilà. Le mot salarié, j'aime pas trop, je veux dire que je fais vivre effectivement 5 familles.
Cinq familles, voilà. C'est très beau.
Et vos prix vont de 8 à 9 euros environ. 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça à peu près?
Oui, à peu près.
Vous travaillez en priorité avec les petits commerces, avec les chefs. Vous aimez la proximité. Mais ça ne vous empêche pas d'aller à l'étranger parce que vos confitures aujourd'hui sont renommées.
Alors oui, tout à fait. Moi, ce que je privilégie toujours, c'est l'humain. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir une entreprise qui est humaine. Donc on travaille avec des artisans de la distribution parce qu'on est artisans déjà. On travaille avec des chefs avec qui effectivement on a des belles relations puisqu'on a créé pour plusieurs chefs des collections complètes. Et puis on a un développement à l'international qui se fait de plus en plus sur le Japon, le Canada et d'autres pays. Voilà.
Et la suite à écrire bien sûr pour la Maison Perrotte. Merci Stéphane Perrotte d'être venu nous raconter votre belle histoire. C'est l'entreprise qui va bien. Merci à Sandra Legrand qui était notre coach aujourd'hui.
Merci.
Elisabeth et Céline, à rendez-vous demain midi.